Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin, un matin de plus. J'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée d'Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Liselotte, bonjour à tous.
Alexandre de Galzin est là aussi, ainsi que Richard de Seize. Pour votre programme ce matin, baisser le prix du carburant, c'est possible. On en discute avec Philippe Charlès dans quelques instants. Pour votre grand entretien, c'est Lucien Cerise qui sera avec nous. Voilà, ça fait 6 ans maintenant que nous avons été confinés pour la première fois durant la crise du Covid, avec ces attestations dérogatoires pour sortir de chez soi. Donc on en parlera et on verra en quoi, donc une fois de plus, c'est une expérience d'ingénierie sociale qui a changé notre rapport à la liberté. Pour votre débattons-en à 8h20, Laurent Martin-Saléon sera au micro de Richard de Seize. Il y a 50 ans, une victoire française contre le communisme, vous le verrez. Et puis pour votre analyse du jour, c'est Mériadec Raffray qui sera à nouveau au micro donc de Richard de Seize. Et nous parlerons de la France qui se retrouve en posture défensive au Moyen-Orient. Pour le moment, le bulletin d'actualité, c'est avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour Liselotte aussi. Alors après le premier tour des élections municipales, deux premières alliances commencent à se dessiner tandis que d'autres se ferment. Elles concernent principalement la gauche, il faut dire. Pour le moment, l'union des droites semble quelque peu marginale. Faut tout de même souligner l'alliance exceptionnelle entre le candidat LR de Reims et le RN d'Anne-Sophie Frigou face au macroniste Arnaud Robinet. Autre union des droites, mais contre le RN cette fois. À Menton, la liste de Louis Sarkozy se range derrière Sandra Paire face à Alexandra Masson. Enfin, à Paris, l'alliance semble quelque peu compromise entre Sarah Knafo et Rachida Dati. Si la première tend la main à sa rivale, cette dernière lui préfère Pierre-Yves Bournazel, le candidat centriste qui refuse logiquement, catégoriquement tout pont avec la droite nationale. À Marseille ou à Nice, tout le monde semble se maintenir pour le meilleur et pour le pire. À gauche, malgré les grandes postures d'Olivier Faure, de François Hollande et de Raphaël Glucksmann, les alliances vont bon train. À Toulouse, le candidat PS a ainsi marchandé la fusion contre la place de président de la métropole en faveur du LFI François Picmal. À Besançon, l'alliance écolo-LFI est également actée contre la percée du LR Ludovic Fagot. À Avignon, Brest, Clermont-Ferrand, Limoges et Nantes, on compte aussi de nouvelles alliances contre nature entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Visiblement, certains sont prêts à tout pour un siège.
Oui, une fois de plus, c'est pas évident. Certains sont prêts à tout, mais c'est plus particulièrement le cas à Nice.
Oui, après avoir tendu la main à la gauche, le maire Horizon, Christian Estrosi, ne sait plus où donner de la tête et paraît paniqué. Hier, en plus d'accuser son opposant Éric Ciotti de tous les maux de la terre et d'approuver le surnom Benito que lui avait donné l'éditorialiste macroniste Nathalie Saint-Cricq, il se découvrait une nouvelle fibre multiculturelle. On l'écoute.
Différentes cultures qui font partie de notre cité et qui font aussi leur richesse et sa richesse, parce que j'ai toujours veillé à ce que sur les bancs de l'école, quelle que soit l'origine culturelle, l'origine identitaire de chacun, permette de donner une égalité des chances, une équité à chacun pour leur permettre d'arriver au meilleur niveau et se hisser au meilleur niveau de la République française pour pouvoir exercer les plus belles fonctions qui soient.
Donc ça, c'est un maire de droite, chers auditeurs, et dans un long naufrage qui s'arrêtera visible vraisemblablement dimanche prochain, sauf retournement très inattendu de situation. C'est en effet Éric Ciotti qui devrait logiquement s'imposer dans une triangulaire où il part grand favori.
Et passons au conflit au Moyen-Orient.
Très bien, alors, tout d'abord, les frappes semblent s'être quelque peu calmées ces derniers jours en Iran, et le régime reste malheureusement bien en place, mais alors que Donald Trump souhaite débloquer le détroit d'Hormuz miné par les Iraniens, aucun pays occidental ne répond à l'appel, confirmant de ce fait un isolement nouveau des États-Unis. La France est l'un des rares pays à n'avoir pas officiellement décliné la proposition du président américain. De leur côté, les Iraniens, immenses producteurs de pétrole et de gaz, n'en ont pas moins utilisé le terme écocide pour désigner les frappes israéliennes sur les dépôts pétroliers. Au moins, ils ne cachent même pas qu'il voit comme allié potentiel la gauche occidentale.
Cette guerre a des conséquences très concrètes pour les Français.
Oui, nous en parlerons dans quelques instants avec Philippe Charlez, mais les prix de l'essence montent. En moyenne, le litre de gazole tourne désormais autour des 2 euros en France, avec bien entendu un effet déjà sensible sur le pouvoir d'achat des ménages. On atteint désormais plus 41 centimes par litre depuis le 1er janvier, dont plus 31 centimes sur 2 semaines. Cependant, bonne nouvelle pour vous, chers auditeurs, les magasins du Système U et Leclerc ont promis une baisse de 30 centimes en moyenne dans la semaine à venir, notamment grâce à une pression mise sur les raffineurs. Les distributeurs ont néanmoins appelé à des efforts de la part de l'État qui pèsent toujours pour plus de la moitié du prix de l'essence.
Et parlez-nous de sport.
Eh bien, je n'ai pas eu le temps d'en parler hier, mais il fallait quand même évoquer la victoire dimanche du français Félix Lebrun en tennis de table. Vainqueur du tournoi WTT de Chongqing en Chine, il a vaincu les champions locaux pour s'imposer à la française.
Bah, bravo à lui. Et quelle est la météo du jour ?
Eh bien, aujourd'hui, le temps s'améliore un peu partout en France. C'est le retour du beau temps, malgré davantage de nuages au-dessus de la Seine. Côté température, on aura ce matin 12 degrés à Strasbourg, 16 à Paris, 18 à Nantes et 23 à Biarritz. Pardon, c'est pour aujourd'hui en général. Et nous célébrons en ce 17 mars Saint-Patrice et Saint-Théostérique. Alors, Saint-Théostérique, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'igoumène du monastère de Pélécette en Grèce. Il mourut le nez coupé, enduit de poids, lentement, au fond de sa cellule. Tout ça parce qu'il n'était pas iconoclaste.
Super, merci Alexandre.
Ligne droite.
Et on poursuit avec votre décryptage.
Chers auditeurs, Oudin, Nomexy, Bruay-la-Buissière, Caen-sur-Mer, Perpignan, Hénin-Beaumont, Le Pontet, Hayange, Beaucaire, Moissac, Arnes. Alors Liselotte, qu'ont en commun toutes ces villes ?
Ben, j'ai une idée, mais vous allez nous le dire Alexandre.
Eh bien le point commun, effectivement, c'est qu'elles ont été toutes emportées par le Rassemblement National dès le premier tour de ces élections municipales. En tout, on compte pas moins de 24 maires Rassemblement National en France, ce qui signifie qu'ils ont emporté plus de 50% des voix dès ce dimanche. Faut pourtant diviser les villes en deux catégories, les anciennes et les nouvelles. Alors, sur les anciennes, d'abord à Hénin-Beaumont, le maire sortant Steve Briouin s'est très largement imposé avec tout de même 78% des suffrages exprimés. La gauche d'Inès Taouri et de Marine Tondelier est réduite à peau de chagrin, il y a une dizaine de jours. Nous avons d'ailleurs publié un reportage qui prédisait quelque peu ce résultat. On vous invite à le retrouver sur notre chaîne YouTube. D'autres villes ont été largement reprises par le RN. À Perpignan, par exemple, Louis Alliot fait 15% de plus qu'en 2020 et s'impose sans sourciller. Réélection aussi dans d'autres villes RN comme Moissac ou Beaucaire. De son côté, David Rachline n'a certes pas été investi par le RN, mais se fait aussi réélire comme en 2020, dès le premier tour à Fréjus, malgré une participation largement en hausse. Enfin, à Bruay-la-Buissière, Ludovic Pajot est réélu avec 81% des voix, soit 30 points de plus qu'en 2020. Scénario semblable à Hayange avec Fabien Egelmann, 73%. À Villers-Cotterêts, autre ville RN, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, on peut quand même en tirer une conclusion très nette. Contrairement à ce que répète la gauche du soir au matin, le RN municipal, c'est quand même une réussite. Faut désormais parler des conquêtes. Alors pour les villes de 10 000 habitants, les députés RN Brian Masson et Nicolas Maisonnet emportent respectivement Caen-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes et Vauvert dans l'Hérault. D'autres villes plus modestes dans les Vosges ou en Gironde ont également été remportées. Saluons aussi l'accession du premier maire des Patriotes, Tony Leprêtre, à Harfleur, l'élection de Nicolas Dupont-Aignan à Hyères, et de manière générale, les 75 villes dans lesquelles le Rassemblement National et l'UDR sont arrivés en tête, tandis qu'il n'était que 11 en 2020. Avec plus de 500 listes au-dessus des 10%, et donc autant d'entrées dans les conseils municipaux, on ne peut que constater une forte progression du parti à la flamme partout en France. Oui, chers auditeurs, LFI monte, mais le RN a déjà sa petite victoire.
Merci Alexandre pour ce décryptage.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous débutons avec Philippe Charlez. Vous commencez à le connaître, chers auditeurs, ingénieur des mines de l'école polytechnique, docteur en physique, expert en questions énergétiques. Et donc on aime bien l'interroger là-dessus, surtout en ce moment, avec donc ces prix du pétrole qui s'envolent. Bonjour Philippe Charlez, merci d'être
bonjour
avec nous.
Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs.
Alors je pense que vous avez envie de réagir dans un premier temps ce que vous avez entendu pendant le bulletin d'actualité. Je vous ai vu réagir avec Donald Trump qui voudrait débloquer le détroit d'Ormuz et donc les Européens qui semblent assez silencieux face à cet appel. Est-ce que vous voulez nous en parler ?
Alors oui, c'est même, je vais dire, s'ils ne sont même pas silencieux, c'est une fin de non-recevoir, puisque d'après ce que j'ai vu ce matin, Emmanuel Macron a répondu qu'il n'enverrait pas de bâtiments pour sécuriser ou débloquer le détroit d'Ormuz. On a été très surpris d'ailleurs de cette demande de Donald Trump. Le fait est que j'étais justement sur un plateau de BFM TV quand la nouvelle est sortie, donc elle a été débattue pendant toute l'heure. Et donc j'ai pu profiter d'une certaine réponse d'un certain nombre de stratèges militaires qui étaient sur le plateau et qui expliquaient que c'était quand même assez inquiétant et que quelque part on avait l'impression d'un Donald Trump qui était aux abois et qui était très inquiet de la suite des événements, et notamment je crois qu'il a annoncé maintenant qu'il prolongeait d'au moins un mois la durée des hostilités. Alors c'est assez marrant d'entendre « je prolonge d'un mois les hostilités » parce que je crois qu'il n'a pas toutes les cartes pour répondre à cette question. Je crois qu'il est aussi sous la pression de Netanyahou qui lui a expliqué. Donc manifestement, ça ne se passe pas comme prévu et le déblocage de ce détroit. Alors d'ailleurs, quand on parle de blocage, il s'agit presque plus d'un blocage psychologique qu'un blocage physique. Je crois que j'en avais déjà dit un mot la dernière fois, mais c'était pas aussi évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que les primes d'assurance des bateaux qui doivent traverser le détroit d'Ormuz ont explosé. Et ce qui a explosé aussi, ce sont les primes données aux équipages. On conçoit effectivement que quand on explique à un équipage que pour traverser le détroit d'Ormuz, on prend des risques de se faire sauter sur une mine, certains équipages sont d'accord, mais à condition d'augmenter les primes. Et donc, ce qui fait que la situation est en train de rendre presque non économique la traversée du détroit d'Ormuz, et donc ça veut dire qu'effectivement de nombreux bateaux hésitent à le traverser. Alors pour l'instant, au niveau des prix, ils sont assez stables pour l'instant, il faut le dire. On a un pétrole qui est aux environs de 100-103 dollars, et depuis une semaine, il a assez peu varié. Et pareil pour le gaz, on est autour de 50 euros le mégawatt-heure. Donc on a l'impression d'être un peu sur un plateau. Mais il faut quand même savoir que depuis le début de l'année, quand on s'était vu d'ailleurs, on était à un baril à 60 dollars, on est à un baril à 103 dollars, donc un baril qui a pris quand même 40% depuis le début de l'année. En ce qui concerne le gaz, on est passé de 30 à 50 pour faire simple, donc à peu près la même différence en pourcentage.
Alors, vous, Philippe Charlez, si on considère la situation, on peut quand même imaginer qu'à un moment ou un autre, le prix va finir par grimper si ça ne se débloque pas, parce que même si certains bateaux passent encore, on est quand même largement en deçà des quantités habituelles qui transitent par ce détroit pour alimenter l'Europe. Donc, comment est-ce qu'on pourrait éviter ces hausses ?
Alors, la première chose, c'est de savoir est-ce qu'on peut débloquer dans l'avenir immédiat. Ça paraît compliqué. Alors bon, il peut y avoir, comme je vous ai dit, tout est très psychologique. Donc c'est-à-dire que le déblocage et la baisse des prix n'est pas nécessairement physique, elle est psychologique. Donc c'est-à-dire que est-ce que les États-Unis vont tenter une opération au sol pour au moins sécuriser la bande de terre iranienne qui donne sur le détroit d'Ormuz? C'est une éventualité, puisque les États-Unis ont envoyé environ trois bateaux, j'ai entendu, avec 2500 fantassins capables. Est-ce qu'il va se lancer dans cette opération au sol? Rien n'est certain. La deuxième chose pour faire baisser les prix, alors ça a certainement eu un rôle sur la stabilisation, mais probablement pas d'impact encore sur la baisse, c'est donc le déblocage des réserves stratégiques. Donc on avait parlé de 400 millions de barils de réserves stratégiques débloquées, ce qui finalement nous protège un peu pendant une quinzaine de jours, on va dire, de la hausse supplémentaire des prix. Donc la stagnation des prix est aux aux alentours de 100 dollars est probablement aussi le résultat de cette libération de stocks stratégiques et de ces 400 millions de barils. Hein. Le détroit d'Ormuz, c'est 20, il y en a un tout petit peu qui passe. 20 fois 20, ça fait 400, donc ça fait 20 jours. Hein. Il y a pas de, le calcul est assez simple.
Tout à l'heure, Alexandre nous expliquait que si on parle vraiment du prix du carburant à la pompe, les distributeurs appellent le gouvernement à faire un effort et qu'aujourd'hui, justement, le gouvernement...
Non, c'est plutôt le gouvernement qui appelle les distributeurs à faire un effort.
C'est ça, et donc parce que ça représente la moitié du prix. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, effectivement, pour soulager le consommateur?
Alors, quand on regarde l'augmentation... On va essayer de faire avec des chiffres simples parce que si on mélange tout, nos auditeurs vont s'y perdre. On était à 60 au début de l'année, on est à 2 aujourd'hui, ça fait 40 centimes d'augmentation du prix du litre. Or, quand on regarde les 40 dollars dont je parle du baril, je crois que je vous avais dit que 10 dollars d'augmentation, ça fait 5 à 6 centimes d'augmentation du prix du litre.
Là,
donc on a 4
entre...
x 6, 24. Oui, mais les marchés anticipent toujours. Donc ce qui veut dire que c'est la répercussion se fait finalement très rapidement. Elle se fait aussi très rapidement à la baisse. Parce que le consommateur veut voir tout de suite la baisse, donc elle se fait aussi assez rapidement à la hausse. La deuxième, donc ça, le baril joue à peu près pour un peu plus de la moitié de l'augmentation. Après, vous avez le raffinage, parce que les produits raffinés aussi augmentés, qui jouent à peu près, j'ai regardé, pour 17%. Et puis, vous avez quand même l'État, donc c'est-à-dire les taxes, mais aussi, on va en parler, les certificats d'économie d'énergie, qui jouent pour environ 28%. Donc, c'est-à-dire que globalement, si on cumule l'État et les certificats d'économie d'énergie dont je vais vous parler, il y a une part de l'État qui est de 28%. Et donc, l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est que, bon, il y a diverses propositions, hein, on va dire, de la part des partis. Bon, la première, et les LFI proposent de bloquer les prix. Alors ça, si on bloque les prix, c'est la pénurie assurée. Ça, ce que je veux dire, c'est que les distributeurs ne vendront pas à perte, ils n'acheteront pas du baril pour après leur vendre à perte. Donc, c'est-à-dire que, comme tout le temps dans l'histoire, hein, à chaque fois qu'on a voulu faire de la pénurie, on a observé, qu'on a voulu faire du blocage des prix, on a observé une pénurie. La deuxième, c'est la proposition du RN que je ne partage pas, c'est de baisser la TVA à 5,5%. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ça représente à peu près 12 milliards d'euros en lissage annuel, hein, de perte de recettes pour l'État. Donc ça veut dire que l'État qui est déjà fortement endetté, ça va lui faire un endettement supplémentaire de 12 milliards d'euros. Soit ça veut dire de l'emprunt supplémentaire avec un report sur les générations futures, soit ça veut dire des hausses parallèles d'impôts ailleurs. Donc c'est pas une solution. En revanche, on va parler des certificats d'économie d'énergie. Alors les certificats d'économie d'énergie, je vous rappelle que, alors c'est pas une taxe, c'est une taxe un peu déguisée, mais que c'est un prélèvement, on va dire une contribution que celui qui achète un litre d'essence ou un litre de gasoil. Donc une part, on va voir exactement le taux, et ces certificats d'économie d'énergie sont ensuite reversés à l'État, qui lui-même les reverse à des gens qui vont par exemple isoler leur habitat, acheter une pompe à chaleur, éventuellement d'ailleurs contribution aussi sur les véhicules électriques. Et quand on regarde ce CEE, ce certificat d'économie d'énergie, il compte aujourd'hui pour environ 16 à 17 centimes le litre. Donc ça veut dire que c'est quand même une part qui est relativement importante. Et donc la proposition que je ferai, c'est non pas de les supprimer, mais de les suspendre pendant un certain temps, de façon à... Donc c'est quand même significatif, ça baisserait à peu près de 16 à 17 centimes le litre. Donc on va dire que c'est un peu moins de la moitié de l'augmentation des 40 centimes. Alors, si on cumule l'augmentation des 40 centimes en lissage annuel, ça représente pour les Français une perte de pouvoir d'achat de 20 milliards d'euros. Hein. C'est quand même énorme. Et là, on va dire que la suppression temporaire des certificats d'économie d'énergie permettrait d'en représenter la moitié. Donc, c'est 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat qu'on rend aux citoyens français. Or, on sait que de toute façon, ces certificats d'économie d'énergie, très personnellement, ne sont pas d'une très grande efficacité. Donc, je pense que la solution de les différer dans le temps, j'ai fait cette proposition-là à plusieurs partis politiques, on va voir comment ils répondent, serait à mon avis une bonne solution pour alléger la facture carburant des Français au cours des prochains mois, quitte à les remettre quand le prix de l'essence aura baissé.
Ce qu'on voit, c'est quand même que une fois de plus, on risque d'entendre d'ici quelques semaines des responsables politiques nous expliquer qu'ils n'y pouvaient rien, que c'est le contexte et que, en fait, malheureusement, chers Français, il faut payer. Mais là, Philippe Charles, vous nous le dites, l'État a quand même une responsabilité et peut agir dans cette crise. C'est pas que des facteurs extérieurs.
Alors, je dirais que c'est, je vais m'expliquer sur le thème, responsabilité mécanique. Donc, c'est-à-dire que globalement, à partir du moment où le prix hors taxe augmente, à cause du baril de pétrole ou de la marge de raffinage, comme vous appliquez 20% au prix hors taxe, inévitablement, vous augmentez de 20% l'augmentation elle-même. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs aux 40 centimes d'euros. Dans les 40 centimes d'euros, il n'y a pas que du baril et du raffinage, il y a aussi, je vous l'ai dit, les taxes. Et comme les certificats d'économie d'énergie, si on prend la référence du début de l'année, ont eux-mêmes augmenté de 6 centimes depuis le début de l'année, je les ai intégrés dans les 28%, ça veut dire que globalement, l'État gagne 28% de plus sur le litre d'essence depuis le début de l'année. Donc, à mon avis, il doit de son côté faire un effort. Mais je préfère l'effort sur les certificats d'économie d'énergie que sur la TVA. C'est un choix qu'on peut discuter. Mais pour la raison que je vous ai expliquée, c'est que les certificats d'économie d'énergie, finalement, c'est un peu différé dans le temps des travaux qui ne sont pas à la journée près. Le réchauffement climatique est quelque chose de long terme. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas non plus fortement pénaliser le réchauffement climatique en différant les certificats d'économie d'énergie, alors qu'au contraire, la baisse de la TVA, là, c'est vraiment une perte sèche pour l'État.
Et puis, ça permettrait de pouvoir aussi peut-être vérifier l'efficacité de ce certificat, puisqu'en l'arrêtant, on verrait si ça a des effets
ou
absolument.
Non,
peut-être qu'on se rendrait compte.
Parce que j'ai certains doutes sur l'efficacité, notamment on sait qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine. Donc l'effet d'aubaine, ça veut dire que je crois que vous avez déjà été appelé sur votre téléphone pour profiter des certificats d'énergie. Moi, c'est journalier, ça m'irrite profondément. Et que donc, en fait, vous avez effectivement un tas de sangsues, si j'ose dire, qui essayent de profiter de ces certificats d'énergie pour notamment gonfler des prix de rénovation de bâtiments, etc. Donc, ça n'encourage pas nécessairement à la transparence et à l'honnêteté.
Merci beaucoup Philippe Charles d'avoir
merci
été avec
vous.
Nous ce matin. Merci pour cette proposition. Vous nous l'avez confiée, l'avoir partagée avec certains partis politiques. Donc, on verra si jamais cette proposition prend et puis quels sont ceux qui auront le courage ou la clairvoyance de vous écouter. Et puis, on ne manquera pas surtout de vous réinviter pour continuer à parler de tous ces sujets, puisque semaine après semaine, il y a de nouvelles déclarations, de nouvelles mesures. Donc, voilà, ce sera
oui.
un plaisir
Alors,
d'en discuter avec
vous. Je doute, compte tenu de la semaine électorale, que la décision sorte cette semaine. Mais enfin, on verra. Peut-être qu'il y a vraiment un ultra courageux, on ne sait jamais.
Ouais, sinon, la semaine prochaine, on aura peut-être de quoi discuter avec vous. Merci
Allez,
beaucoup.
Allez, au revoir et merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci d'être avec nous ce matin, chers auditeurs, et puis bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Dans quelques instants, vous retrouvez la chronique de Richard de Sèze, je sais que vous l'attendez. Et pour le moment, on débute avec Lucien Cerise.
Ligne droite. Le grand entretien.
Lucien Cerise, bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends parfaitement.
Merveilleux, on vous entend aussi, on est ravis puisque ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait plus reçu. Vous êtes diplômé en philosophie, en sciences de la communication, écrivain, conférencier et auteur notamment de « Gouverner par le chaos »,« Ingénierie sociale et mondialisation » aux éditions Maximilo. C'est un peu pour ce genre de travaux qu'on vous reçoit aujourd'hui, puisque, chers auditeurs, on l'a annoncé en début de matinale, aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous avons été confinés pour la première fois pendant la crise du Covid-19, avec donc la mise en place de ces attestations dérogatoires pour pouvoir sortir de chez nous. Et donc, on s'interroge, voilà, est-ce que derrière cette période, ne se cache-t-il pas en réalité une expérience d'ingénierie sociale ? On y a consacré beaucoup d'entretiens. Et donc, notamment déjà avec Lucien Cerise, vous pouvez les retrouver sur YouTube. La réponse, vous en doutez, elle est plutôt positive. Et donc, on s'interrogera ensuite sur la façon dont ça a changé sur le long terme notre rapport à la liberté. Mais bon, pour commencer, Lucien Cerise, peut-être un retour dans le temps. Quand vous apprenez donc ce confinement, ces mises en place de passes, d'attestations pour pouvoir sortir de chez soi, comment est-ce qu'à ce moment-là, vous analysez les choses ? Est-ce que vous aviez déjà le recul que vous avez pu avoir ensuite sur ce que ça pouvait représenter, encore une fois, en termes d'ingénierie sociale ?
Oui, on avait le recul aussi de 2009, c'est-à-dire de la pandémie de grippe H1N1. Donc, moi, ce que je me suis dit là en 2020, quand on nous a annoncé le confinement, c'est que bon, c'était une opération donc de même type que celle de 2009, mais mieux ficelée, mieux réussie, puisque bon, la chaîne de commandement, de toute évidence, était beaucoup plus centralisée et beaucoup plus mieux obéie qu'en 2009. Je me suis dit aussi, pour une fois, ils ne parlent pas d'un virus. Enfin, pas trop, en fait. On nous parlait du coronavirus. Assez rapidement, on est passé à Covid-19. Il faut être attentif aux éléments de langage. C'est comme ça que l'on renomme la réalité. Et surtout, le terme de grippe avait totalement été censuré des éléments de langage du pouvoir. De fait, en 2009, on nous parlait d'une grippe. L'espèce humaine vit avec la grippe depuis des milliers d'années. Essayer de faire peur avec la grippe, c'est un peu comme ressortir le père Fouettard. Ça ne fait peur qu'aux enfants. Enfin, je veux dire, ça fait pas peur à grand monde. En revanche, là, ils ont fait très attention en 2020 de ne pas utiliser le terme de mot grippe pour justement nous plonger dans une nouvelle réalité. Comme disait Klaus Schwab dans son petit livre sur la grande réinitialisation, la nouvelle réalité qui devait sortir de cette période de pandémie, de confinement, la moitié de l'humanité a été vraiment plongée dans un univers étrange où on ne devait plus sortir de chez soi. Donc il y a effectivement eu une expérimentation. Alors là, typiquement française, je crois que nous sommes les seuls à avoir eu les auto-attestations. Dans les autres pays d'Europe, j'ai pas fait la liste intégrale mais je crois que c'était un cas unique. Ça c'est directement issu de l'Élysée c'est-à-dire qui travaillait avec BVA, l'Institut de sondage, et BVA a recommandé de pratiquer cette espèce de d'auto-attestation pour faciliter le consentement, pour fabriquer le consentement, pour donner l'illusion, pour produire l'impression que nous sommes encore libres, en quelque sorte, et que c'est nous-mêmes qui, nous auto-limitons avec une auto-attestation assignée par nous-mêmes, et pour en quelque sorte nous faire intérioriser des contraintes extérieures. Alors là, je vais faire peut-être un petit point d'ingénierie sociale un peu théorique, mais si vous voulez, l'ingénierie sociale, c'est quoi ? Fondamentalement, c'est une approche mécanique de la société. C'est-à-dire, on va traiter scientifiquement la société, on va traiter l'humain scientifiquement. C'est très proche du courant de pensée utopiste au 19e siècle. C'est-à-dire, en fait, nous allons finir avec le malheur, nous allons finir avec les problèmes. Éventuellement, on va même en finir avec la mort. Ça, c'est l'idéal, le fantasme transhumaniste. Et on va, en fait, donc, pour le bien de l'humanité, nous allons donc en finir avec l'irrationnel, avec au moyen d'un traitement parfaitement rationnel et scientifique de la société. Alors, bon, cela produit un effet de chosification hein, sur l'humain, qui est donc de pathologie mentale. Enfin, ça induit, de fait, on a vu hein, à partir de 2020-2021, une explosion des pathologies mentales hein, en France et en Occident. Les pays qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui ont le moins subi hein, les contraintes sanitaires, hein, toutes enfin, que ce soit le confinement ou d'autres contraintes. Donc, en fait, bon, l'ingénieur social hein, a affaire à une difficulté à surmonter. Hein, c'est comment automatiser hein, les sociétés humaines sans les détruire, hein, sans provoquer de pathologies mentales. Parce que ce qui distingue le vivant de la machine, en fait, c'est très simple. Hein, j'ai découvert ça déjà. J'avais mis ça au clair hein, dans la première édition de Gouverner par le chaos. En fait, il faut étudier un petit peu la cybernétique. Hein. L'ingénierie sociale est une discipline sœur de la cybernétique. La cybernétique ne distingue pas le vivant et le non-vivant. Hein. C'est pour ça que ça a beaucoup inspiré la science-fiction, hein, avec des humains qui discutent avec des robots, etc., de l'intelligence artificielle, hein, et des machines qui ont la même dignité, hein, des robots qui ont la même dignité ontologique que les humains, et nous discutons d'égal à égal avec des êtres artificiels.
Oui. Bon, et plutôt que la machine qui serait humanisée, c'est plutôt l'homme qui se retrouve au rang de machine, et donc voilà.
C'est ça. Et avec tous les effets hein, dépressifs, hein, anxiogènes que ça produit. Et donc, alors voilà, donc je pour ce qui est du point théorique, parce qu'il faut vraiment bien comprendre que l'ingénierie sociale, c'est bon, une méthodologie donc issue du 19e siècle, hein, qui apparaît sous la plume des penseurs utopistes, hein, mais c'est en fait, bon, cette méthodologie s'affronte justement aux besoins de liberté, hein, ce qu'on appelle la liberté dans nos cultures. Dans le vocabulaire scientifique, on appelle ça l'incertitude hein, ou l'imprévisibilité. Et donc, ce qui distingue la machine du vivant, hein, c'est que la machine dysfonctionne quand elle n'est pas totalement sous contrôle. Hein, les machines ont besoin d'être totalement sous contrôle. Et ben, nous, c'est différent. Nous dysfonctionnons quand nous sommes totalement sous contrôle. C'est là que nous commençons à développer des pathologies mentales et des pulsions éventuellement d'autodestruction, d'automutilation, etc. Et donc on a vu hein, une explosion des pathologies mentales, hein, notamment dans la jeunesse, hein, dès 2020, puisque bon, après le confinement très dur là, qui a duré 2 mois au printemps 2020, on nous a laissé respirer pendant l'été, et boum, ensuite ça recommençait dès le mois d'octobre avec donc les masques obligatoires. Le couvre-feu. Oui. Couvre-feu à 18h. Hein. Moi, j'avais à peine le temps de rentrer chez moi, j'avais besoin d'une attestation aussi du travail, là pour prouver que voilà, je ne pouvais pas faire autrement que de circuler dans la rue après 19h, après 18h.
Et tout un tas de mesures délirantes pour continuer à orchestrer le peu de vie sociale qui pouvait s'organiser. On a vu oui. Ensuite, par exemple, ces autorisations être en terrasse, debout ou assis, mais en fait non, parce que le virus circule. Et puis, il y a cette mise en place aussi de ces nouveaux codes de salutation. On se dit bonjour à distance, parce que d'un coup, si on serre la main, on se retrouve être une espèce d'assassin en puissance. Ce qui est assez fascinant, c'est que vous nous le dites, Lucien Cerise, cette politique ultra-managériale, cette ingénierie sociale, elle est censée se baser sur un raisonnement qui est scientifique, qui est purement rationnel. On ne comprend pas vraiment où se trouvait la rationalité dans l'esprit de nos dirigeants à ce moment-là, et même les fondements scientifiques, parce que des scientifiques qui ont essayé de, voilà, de démêler le vrai du faux, essayer de comprendre ce qui se passait avec ce virus, la façon dont il se propageait, il y en a eu beaucoup. Tous n'ont pas eu la parole, et ça va à l'encontre même de la façon dont on est censé travailler justement sur ces sujets-là, rationnellement, croiser les études, croiser les points de vue. Tout ça n'a absolument pas été fait.
Ah bah oui, non, mais il n'y avait plus aucune rationalité scientifique, de vraie rationalité scientifique, hein, on s'entend, hein, entre 2020 et 2022. Hein, discuter avec des scientifiques qui n'ont pas de conflit d'intérêts, Hein, et puis bon, enfin voilà, bon, c'est, je veux dire, j'en ai dans mon entourage. Hein, bon, ils s'arrachaient les cheveux. Enfin, ils disaient, mais à quoi ça sert d'avoir que j'ai fait une thèse de comment dire, enfin que j'ai autant travaillé, y compris dans le secteur médical, pour voir appliquer ça de mon vivant. Hein, enfin, je veux dire, alors il y a les gens bien connus comme Louis Fouché, par exemple. Hein, mais je veux dire, Louis Fouché n'est que la partie visible, hein, de ce milieu médical, hein, qui en fait n'était pas dupe, hein, de ce qu'on nous faisait vivre. Voilà, il y a quelques personnes, Éric Loridan, etc. Enfin, il y a quelques personnes comme ça qui sont montées au créneau, hein, qui en ont subi les conséquences d'ailleurs. Mais sinon, vous avez une armée, hein, de médecins, enfin, ou de personnes, de personnels médicaux, en fait, derrière ces gens-là, hein, et puis de scientifiques, hein, éventuellement, enfin, en laboratoire, ou des gens qui sont pas forcément au contact des patients, hein, mais c'est par milliers et à travers le monde, c'est par millions, hein, que ces mesures délirantes ont été désapprouvées par les scientifiques. Hein, et je parle de ceux qui n'étaient pas effectivement en conflit d'intérêts commercial, hein, avec les producteurs de vaccins. Donc en fait, bon, le problème de l'ingénierie sociale, c'est voilà comment en fait, en quelque sorte, traiter le vivant comme une machine, sans tuer tout de suite le vivant. Hein, et donc en respectant son sentiment de liberté. Et donc il y a des artifices, hein, des subterfuges qui ont été élaborés, et ça c'est la deuxième partie, hein, de l'ingénierie sociale. La première partie, c'est un peu dans le sillage du courant utopiste, c'est comment traiter la société, hein, comme une belle mécanique, hein, dont nous allons en quelque sorte huiler les engrenages, pour que ça marche parfaitement, qu'il n'y ait plus de problème, en finir avec l'égocentrisme, en finir, enfin que voilà, tout ce qu'on appelait les passions, hein, ce que les classiques appelaient les passions, et puis, mais bon, ça nous transforme en robots en fait. Hein, cet idéal, hein, rationaliste, positiviste, crée plus de problèmes, hein, qu'il n'apporte de solutions, du fait justement que, en gros, c'est notre horizon d'incertitude qui est réduit à zéro, hein, et notre comportement est entièrement sous contrôle, et donc on tombe malade, mais mentalement, voire physiquement d'ailleurs, hein, parce que bon, le confinement était de toute façon pathogène, y compris pour des raisons purement physiologiques, hein, et les autres mesures également. Ça c'est la première jambe de l'ingénierie sociale. La deuxième, c'est comment faire passer, hein, ce traitement mécanique de la société, hein, cette automatisation du vivant, en réduisant les conséquences pathogènes. On va mettre en place donc des subterfuges qui vont en quelque sorte donner, hein, à la cible vivante, hein, à la cible humaine, le sentiment qu'elle est encore libre, hein, et que c'est elle qui décide de s'infliger, hein, toutes ces méthodes d'auto-contrôle.
En jouant notamment sur la peur. Elle se dit, voilà, je me protège, oui, parce que effectivement on m'a expliqué que j'étais en danger de mort, que moi-même je pouvais donner la mort, et donc je choisis en mon âme et conscience de protéger les autres, de me protéger moi-même, et donc d'accepter tout ce qu'on me propose.
Voilà, c'est ça. Et c'est donc alors il y a on rentre, hein, dans le deuxième volet de l'ingénierie sociale, hein, c'est tout ce qu'on appelle le piratage, hein, le hacking, hein, le piratage psychologique là, en l'occurrence. Bon, même si ça vient d'un pirate informatique, Kevin Mitnick, hein, qui s'est approprié l'expression de social engineering dans les années 80-90 pour qualifier sa méthode, hein, de piratage des systèmes de sécurité. En ciblant le facteur humain. C'est l'originalité, hein, en quelque sorte, hein, de sa méthode par rapport à des pirates qui vont cibler les machines, hein, qui vont faire du code et qui ne rencontreront jamais, hein, l'utilisateur de la machine. Bon, Kevin Mitnick et ses disciples, hein, parce qu'après il a eu des suiveurs, lui a décidé, hein, d'inverser en quelque sorte on pourrait dire le système, sa méthodologie, en frappant en quelque sorte, en s'attaquant au facteur humain. Et donc, Mais avant lui, il y avait déjà eu, hein, par exemple, un journaliste bien connu hein, du grand public, enfin surtout anglophone, hein, Walter Lippmann, qui en 1922, dans un livre intitulé Public Opinion, proposait, inventait hein, le concept hein, de fabrique du consentement. Parce que c'est une expression qu'on entend souvent, on ne sait jamais exactement d'où ça sort. Bon, bah là, dans mon dernier livre, la sortie en septembre 2015. Que je peux montrer à l'antenne aussi, si ça ne dérange pas. Voilà, bon, c'est voilà. Hop, il disparaît.
On l'affichera sur YouTube.
D'accord, merci. Donc je commente abondamment, enfin sur plusieurs pages, des citations hein, de Walter Lippmann, donc l'inventeur hein, de cette expression de engineering of consent, hein, de fabrication, enfin traduit. Communément en français par ingénierie du consentement hein, et qui consiste effectivement à en fait on pourrait dire manipuler les gens mais doucement en quelque sorte hein, en respectant hein, leur sentiment de liberté et sans les violenter hein, c'est un peu la différence entre la manipulation enfin en tout cas entre le mode de contrôle social autoritaire hein, des sociétés traditionnelles hein, et puis des sociétés autoritaires totalitaires au XXe siècle hein, qui écrasent l'individu hein, sous une hiérarchie très lourde et puis le mode de contrôle social tout en douceur, hein, tout en subtilité des démocraties libérales. Et Walter Lippmann, dès 1922, hein, en fait, se montre très ironique hein, vis-à-vis justement des démocraties libérales. Hein. Il dit bon, en réalité, le but ultime est le même hein, que dans n'importe quel système autoritaire, mais on va procéder autrement. Hein, et donc, on va en quelque sorte obtenir. Hein, le consentement hein, des populations et si bien que le Big Brother en fait viendra de la population elle-même. On va essayer de faire naître une espèce en fait de Big Brother soft, hein, pardon, enfin de Big Brother, on pourrait dire doux, hein, pour que en fait il n'y ait pas de phénomène de rejet, parce que c'est ce que finalement l'ingénierie sociale dans sa branche de piratage hein, psychologique essaye d'éviter, c'est les mécanismes de rejet. Hein, donc pour ça il faut rester furtif, hein, il faut procéder de façon subliminale. Pour qu'il n'y ait pas justement ce mécanisme de rejet qu'on voit aussi dans la médecine hein, en fait hein, quand en fait le corps rejette des substances qui l'agressent, bon le psychisme lui aussi hein, peut rejeter des sortes d'implants hein, psychiques hein, qui ne lui conviennent pas. Alors en marketing, ça a donné naissance à un certain nombre de techniques, hein, notamment le nudge, par exemple. Hein, donc il y a le nudge en fait. Bon, si c'est le mot anglais. Hein, on traduit ça par coup de coude, hein, coup de pouce. En fait, hein, donc c'est en fait. Alors les inventeurs du nudge, c'est Cass Sunstein, qui était conseiller de Barack Obama. Et qui a travaillé en collaboration avec Richard Thaler, donc qui lui a été lauréat du prix Nobel d'économie en 2017. Ils ont travaillé sur l'économie comportementale. C'était leur branche hein, de l'économie, hein, donc qui se distingue des deux grandes tendances hein, en économie. Hein, c'est-à-dire, en gros, le marxisme et le libéralisme. Ben, il y en a encore une troisième, hein, c'est l'économie comportementale. Qui à mon avis est la plus véridique, enfin la plus proche des réalités. Bon, bref, je vais pas développer là-dessus, mais je vais. En fait, ils ont ensuite transposé leur concept dans le domaine, hein, on pourrait dire, de la psychologie sociale et de l'ingénierie sociale, hein, en ajoutant en fait la notion d'infiltration cognitive, donc que l'on doit à Cass Sunstein en particulier, hein, dans un texte qu'il avait écrit dans les années 2000, hein, vers 2008. Dans lequel il se demandait comment en finir avec les théories du complot et notamment les théories du complot sur le 11 septembre hein, qui attribuent aux services secrets hein, la paternité de l'attentat hein, c'est-à-dire que ce serait un attentat sous faux drapeau qui aurait été commis par les services secrets américains ou israéliens et ensuite attribué à des islamistes. Voilà, donc ça, c'était un récit hein, du 11 septembre qui circulait beaucoup dans les années 2000 et qui circule encore d'ailleurs, hein, et que en fait on attribue en fait à la mouvance complotiste ou conspirationniste. Alors, Cass Sunstein se pose la question dans un article, comment finir hein, avec cette mouvance et avec ce récit hein, qui circule. Eh bien, en fait, on ne va pas le censurer directement, on va réaliser une infiltration cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, on va envoyer hein, des agents sur les réseaux sociaux pour, en fait, ridiculiser cette théorie en l'amplifiant. Hein, c'est aussi un concept hein, qui a été inventé alors là dans les années 70. Hein, c'est en quelque sorte la censure par amplification. Hein, on va envoyer en fait des gens, enfin des trolls, hein, ce qu'on appelle en fait dans le terme des réseaux sociaux. Enfin, avant c'était sur les forums, mais donc si vous vous souvenez, hein, avant les réseaux sociaux, il y avait les forums de discussion. Donc bon, à l'époque de Cass Sunstein en 2008, on en était encore au forum. Hein, les réseaux sociaux étaient pas très développés. Enfin, il y avait Facebook et c'est tout. Donc aujourd'hui, on parle plutôt des réseaux sociaux, mais on va envoyer effectivement en fait hein, donc des trolls pour en quelque sorte faire réaliser une infiltration cognitive et ridiculiser hein, les théories du complot hein, que l'on veut censurer, mais indirectement.
Donc ça, Lucien Cerise, c'est quelque chose que on a pu constater, selon vous, au moment de la période du Covid-19 et donc de ces différents confinements ?
Oui, bien sûr, oui, parce que bon, là, je fais une digression un peu, mais j'ai toujours tendance à vouloir faire un peu l'histoire, en fait, des concepts. Mais effectivement, oui, bon, par exemple, on a vu, par exemple, des gens qui nous disaient que, y a pas de virus. Voilà. Donc là, c'était, hein, en fait, une censure par amplification. L'idée, c'était de diffuser, en fait, une théorie radicale, hein, de radicaliser, en quelque sorte, le scepticisme. Hein, parce que bon, le doute méthodique a été mis à l'honneur hein, par un de nos grands philosophes, hein, Descartes. Et avant Descartes, bon, en réalité, la philosophie, justement se distingue de la religion hein, par justement l'exercice du doute et de la raison critique. Donc on a le droit de critiquer les récits médiatiques, hein, quels qu'ils soient. Bon, mais en fait, pour en quelque sorte en finir, pour ridiculiser le doute méthodique cartésien, eh bien on peut diffuser une version caricaturale de ce doute cartésien. Par exemple, en diffusant hein, effectivement un récit dans lequel il n'y a pas de virus du tout, ou alors bon, je sais pas quoi. Enfin, ouais. En fait, on a vu hein, une nuée, enfin un essaim en fait hein, de théories hein, apparaître hein, au printemps 2020 et puis pendant 2 ans quoi. En fait, hein, qui est en quelque sorte été des versions maximalistes en quelque
sorte.
Oui,
et absurdes. Oui. Et donc, gens étaient censés être tentés de prendre le contre-pied en se disant, bah, comme je ne suis pas complètement ahuri et que je ne suis pas prêt à croire à l'absurde, parce qu'évidemment, en virus, il y a, et ensuite, on peut discuter avec les médecins de ses effets, mais il y avait bel et bien quand même un virus et une épidémie. Et donc, voilà, comme je prends le contre-pied, et ben, à l'inverse, je m'engouffre dans tout le récit qu'on me propose par ailleurs.
C'est ça, voilà. Et donc, en fait, après, bon, il y a une compétition des récits, hein, alors, en fait, bon, quand on cherche la vérité, on a affaire à deux ennemis. Hein, donc, en gros, le récit divulgué par, on pourrait dire, le complexe industriel hein, qui veut nous vacciner, etc.
Oui, parce que j'allais y venir, c'est quelles sont les raisons de. Enfin, quels sont les intérêts de cette ingénierie sociale. Pourquoi est-ce que nos dirigeants auraient voulu justement la tester, la mettre en place ?
Ah ben, alors, y a eu des explications, enfin des aveux, hein, littéralement. Je vous invite j'invite tout le monde en fait hein, à trouver sur Internet, hein, on peut le trouver en PDF hein, ou à l'acheter hein, éventuellement, hein, le petit livre hein, de Klaus Schwab et Thierry Malleret. Qui en fait au nom du transhumanisme hein, qui serait le destin de l'humanité, ben, ils n'ont pas entièrement tort, hein, faut avouer. Bon, je veux dire, de fait, la technoscience, c'est le destin de l'humanité. Enfin, je veux dire, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Bon, jusqu'où hein, allons-nous aller avec l'augmentation du corps humain, jusqu'où allons-nous? Jusqu'où irons-nous avec la transformation de la nature humaine par la technoscience? Ça, c'est une vraie question. C'est une question que se posent les transhumanistes, que moi-même, j'étais dans cette mouvance-là à une époque. Et c'est la question que se pose Klaus Schwab, donc le fondateur du Forum économique mondial, mieux connu sous le nom de Forum de Davos. Moi, j'ai vu dans les années 2000, je fréquentais un peu le milieu du management, du marketing dans une association de mémétique. Le transhumanisme était devenu la nouvelle idéologie dominante dans ces milieux-là. C'est-à-dire au-delà de la droite et de la gauche. Ils n'étaient plus ni de droite ni de gauche. En réalité, ils étaient en train de devenir transhumanistes. Et c'est une vraie question que pose Klaus Schwab dans l'un de ses ouvrages sur la fusion du biologique et du numérique qui va aller de façon croissante. Et Klaus Schwab dit... grâce à cette pandémie et surtout aux mesures prises.
En deux mots, Lucien Cerise, et on y revient juste après si vous voulez bien. Je vous laisse finir votre phrase, mais.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un coup d'accélérateur. Cette pandémie est une fenêtre d'opportunité, il écrit noir sur blanc, c'est pour accélérer l'agenda transhumaniste. Et la mondialisation heureuse, c'est-à-dire en finir avec tous les problèmes du passé. Et puis Klaus Schwab raisonne en termes utopistes, mais au sens du 19e siècle. La technoscience va nous permettre d'en finir avec tous les anciens problèmes de l'humanité, notamment en fait les passions, etc., etc.
On revient là-dessus dans un instant, Lucien Cerise. On reprendra là-dessus puisqu'on est avec vous jusqu'à 8h15. On fait une pause avec une chronique de Richard de Sèze et puis comme ça il pourra participer à la fin de cet échange. J'ai hâte de l'entendre également. Donc on vous reprend dans quelques instants. Merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Richard.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Ben, je vais vous parler des élections parce que c'est un sujet intéressant et évidemment il y a plusieurs manières de l'envisager. Ben, par exemple, j'ai posé à Grock la question « Gérard Larcher est-il crétin ?» Il n'a pas voulu me répondre. Il m'a dit « Entre ne pas aimer son positionnement, trouver son style ennuyeux et être objectivement un crétin, il y a un fossé énorme. » Alors, j'ai pas voulu discuter avec Grock. On m'avait dit que c'était une intelligence artificielle de droite. Bon, je l'ai trouvé très consensuel. Moi, j'étais intéressé par les sondages. Par exemple, 64% des sondés proches des LR disent qu'ils sont favorables à ce que les listes du Rassemblement National s'allient ou fusionnent avec celles soutenues par les Républicains. Voilà. Et il y en a 36% seulement qui sont pas favorables. Eux, ils préféreraient fusionner avec Horizon. Au RN, ils sont hyper favorables à ce que tout le monde fusionne. 78% veulent fusionner les listes RN et LR. Voilà. Mais 69% des personnes proches du LR interrogées se disent favorables à des fusions entre les listes du bloc central, Renaissance, Horizon, Modem. Alors, évidemment, la question que ça pose, c'est d'une part, est-ce que les sondages ont raison? Alors, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, Grégory Doucet était censé manger le goudron et Olas être porté sur un trône triomphal jusqu'à la mairie de Lyon. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Par exemple, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que les sondeurs interrogent ceux qui sont inscrits sur les listes électorales plutôt que ceux qui sont juste des adultes en âge de voter? Vous savez qu'il y a une grande différence entre « je suis inscrit sur la liste électorale » et « je suis en âge de voter ». Voilà, il y a des millions de Français qui sont en âge de voter et qui, en fait, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc, il y a une abstention qui est qu'on mesure, qui est l'abstention classique, le delta entre ceux qui auraient pu voter et ceux qui ont voté, mais il faut ajouter en fait quelques millions de personnes qui en fait ne sont pas comptabilisées comme pouvant voter, mais néanmoins sont interrogées par les instituts de sondage. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'en ce moment, on est très en train de s'exciter aussi de l'autre côté de l'Atlantique sur la manière dont, à mi-mandat, Donald Trump va ou non réussir à faire en sorte de garder les différents instruments de pouvoir qui sont à sa disposition, dont le Congrès. Et les sondeurs américains ont tendance, pour au moins certains d'entre eux, à distinguer entre tous les adultes et tous les adultes inscrits sur les listes électorales. Et on se rend compte, évidemment, que si on regarde tous les adultes en âge de voter, eh bien, il y en a beaucoup qui critiquent la position de Donald Trump, bah, bizarrement les hispaniques, par exemple, mais qui font partie de ceux qui sont les moins inscrits sur les listes électorales, et qu'en revanche, si on va du côté de ceux qui ne sont pas hispaniques, eh bien, là, et qui sont républicains et qui se disent républicains, eh bien, le soutien à Trump est indéfectible. Eh bien, c'est un écart de 2, 3, 4, 5 points. Eh bien, 2, 3, 4, 5 points, c'est 5, 10, 15 représentants du parti républicain au Congrès. Autrement dit, c'est la possibilité pour Donald Trump de ne pas perdre les élections. Et on se rend compte comme ça aussi qu'il y a des sondeurs qui disent, bien sûr, puisque Tucker Carlson explique que Donald Trump est en train de taper dans la gamelle, eh bien forcément, il y a une fracture au sein du clan MAGA, Make America Great Again. Et ben justement, quand les sondeurs regardent et ils disent aux républicains « Est-ce que vous vous identifiez comme un républicain MAGA ?» Eh bien, les républicains MAGA, à 85% soutiennent Trump, à 5% contestent Trump et à 10% ne savent pas. Voilà. Un camp dont on dit qu'il est fracturé en deux parce qu'il y a 85% d'un côté et 5% de l'autre, c'est pas vraiment une grosse fracture, hein. C'est plutôt un effritement sur les bords. Hein. C'est un petit lu dont on a commencé à casser les bords. Hein. On n'a pas vraiment déjà fracturé le bébé en deux. Eh bien, là, en France, on a la même chose. C'est-à-dire, les sondeurs demandent à tous les Français ce qui va se passer et, évidemment, tous les Français répondent parce qu'ils sont contents qu'on leur tende le micro. C'est-à-dire, c'est le seul moment où ils peuvent véritablement parler parce qu'après, de toute façon, qu'il s'agisse de Gérard Larcher, d'Emmanuel Macron ou de n'importe qui, on va un peu s'essuyer les pieds sur leurs opinions. Mais, évidemment, on évite de dire « Mais est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales et, par ailleurs, est-ce que vous allez voter ?» Donc, on se retrouve avec une participation médiocre et avec des gens hyper convaincus qui ont décidé d'aller voter, surtout dans les villes, pas du tout dans les campagnes. Dans les campagnes, on a fait en sorte que les gens n'aient pas du tout envie de voter avec l'interdiction de panacher les listes, avec l'obligation de la parité. Donc on a fait en sorte en fait qu'il y ait des milliers de communes avec une liste unique, ce qui encourage véritablement à aller voter, surtout quand on sait qu'on ne pourra absolument rien faire pour la modifier. Donc on a cette espèce de démocratie forcée par Emmanuel Macron et son système. Et puis sinon, donc on a les autres villes où là, il y a véritablement une espèce de réflexion d'ingénierie sociale pour faire en sorte d'inciter les gens à bien voter. Et évidemment, le véritable mot qui surgit de ces élections municipales, c'est « technique ». On nous explique qu'il va y avoir des fusions techniques. Alors, je ne sais pas pourquoi le mot « technique » paraît si admirable à tous ceux qui nous parlent des fusions. Moi, je parlerais plutôt de fusions déshonorables, de fusions honteuses, de fusions grotesques, de palinodies. N'hésitons pas, allons chercher des mots un peu chics. Et il y en a un qui en parle très bien, c'est le camarade Mélenchon. Au deuxième tour, il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise, disent les socialistes. Penses-tu ? Vous savez ce que c'est ? C'est des gros combinards. Ils ne vont pas nous coûter trop cher à acheter là où on les achètera. Ça, c'est ce qu'il disait quelques jours avant le premier tour. Eh bien, moins de 24 heures après les résultats du premier tour, comme le note le Figaro, les faits ont tendance à donner raison aux fondateurs de LFI. À Toulouse, le candidat socialiste a pris ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il a décidé de fusionner sa liste. Quand on est à gauche, on rassemble à gauche, ont-ils dit, bien sûr, c'est technique. Voilà, le destin de milliers d'élus socialistes est en jeu partout sur le territoire. Avant, il fallait sauver les bébés phoques. Là, il faut sauver les élus socialistes. Et donc, Olivier Faure comprend parfaitement qu'on puisse s'allier avec les LFI. Nous prenons nos responsabilités. Notre union est celle de la compétence et de la raison contre l'aventure idéologique. Ah non, ça, c'est pas les socialistes qui l'ont dit. C'est Sandra Peyre et Louis Sarkozy à Menton. Alors, eux aussi, ils sont responsables. Voilà. Et en fait, c'est peut-être la technique est responsable ou la responsabilité technique. Je sais pas bien, mais voilà. En fait, le lien est rompu, nous disaient les uns les autres. Sur le plan national, entre le PS et les LFI, le lien est rompu. Ça n'exclut pas, dans certaines situations locales, à la demande des élus de terrain, d'appliquer ce principe avec souplesse et pragmatisme. Voilà. C'est technique, hein. C'est le président du Conseil national du PS, proche d'Olivier Faure. On ne peut pas comprendre. C'est de la démocratie dans la dentelle. Nous, on est là en train de voter comme des bœufs avec nos bulletins de vote, eux, voilà, ils travaillent dans le technique. Alors, je voudrais revenir un peu sur Menton, puisque techniquement, ils ont pris leurs responsabilités, juste en soulignant que Sandra Paire, qui est techniquement responsable, reste sous le coup d'une inéligibilité. Hein. Elle attend un pourvoi en cassation après une seconde condamnation en appel pour prise illégale d'intérêt. Donc, c'est une personne bien. Alors, elle, c'est une prise illégale d'intérêt, c'est une condamnation, mais il n'y a pas d'inéligibilité immédiate. Hein. Elle a fait des trucs qui sont un peu plus graves que ceux de Marine Le Pen, mais elle, on a considéré que Menton, on s'en fout un peu, et donc Louis Sarkozy, lui, va évidemment s'allier techniquement avec la dame qui est sous le coup d'une seconde condamnation en appel et d'un pourvoi en cassation. Évidemment, il est en terrain connu, c'est normal. Alors Marine Le Pen, elle dit « c'est pas juste ». Elle déplore que ni les saillies antisémites, ni les appels à la violence politique et leurs justifications n'ont eu raison de la mission essentielle de la gauche la plus hypocrite de la Terre, sauver leur mandat. Alors ça, c'est vrai, hein, c'est incroyable, ils veulent sauver leur mandat, c'est des choses, au Rassemblement National, on n'est pas au courant. Alors il suffit de regarder du côté des Républicains, parce que eux, ils savent, hein, ils savent très bien qu'il faut sauver les mandats, et d'ailleurs c'est exactement ce que l'intelligence artificielle m'a redit sur Gérard Larcher. Voilà, donc les élections aujourd'hui, c'est technique, et la technique, ça consiste à faire en sorte de gagner à tout prix. Et je crois que c'est le vrai message en fait politique de ces élections. Les élus ne sont pas là pour vous représenter, ils sont là pour garder leur place.
Merci Richard pour cette chronique, c'est réjouissant. Merci à vous aussi chers auditeurs d'être avec nous ce matin, il est 8h. Pour ceux qui nous rejoignent, nous retrouvons dans un instant Lucien Cerise avec qui nous avions débuté notre grand entretien. Si vous avez manqué le début, vous pouvez le retrouver dans la journée sur notre chaîne YouTube ou sur le site de la radio rc.fr. Et puis ensuite, nous aurons une chronique de Gabriel Fouquet ainsi qu'un entretien avec Laurent Martin Saint-Léon sur une victoire française contre le communisme qui a eu lieu, il y a 50 ans. On poursuit avec Lucien Cerise et Richard de Sèze. Je rappelle quand même que si la radio vous plaît, si vous aimez ce genre de programme, eh bien, il faut l'aider en faisant des dons.
Et pour nous faire des dons, vous pouvez le faire de deux façons. Tout d'abord, nous faisons des dons en ligne sur cette adresse soutenir.rc.fr ou bien encore en envoyant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. On compte sur vous, c'est très important. Merci beaucoup.
Merci d'avance. Et on y va.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Lucien Cerise, on vous a quitté au moment où vous nous parliez des raisons pour lesquelles, selon vous, on a mis en place donc cette ingénierie sociale. En tout cas, on a essayé d'en tester les outils au moment des différents confinements. Et donc, on parlait de ce premier confinement de 2020.
Oui, donc et qui a été donc suivi alors par une période donc pendant l'été 2020 hein, où on nous a relâchés en quelque sorte, hein, on nous a libérés et puis ensuite on est retombé hein, en fait hein, dans des mesures sanitaires, enfin dites sanitaires, des mesures de contrôle social. Avant ça, tout le monde s'accorde sur le fait que c'était du contrôle social, du contrôle comportemental, mais qui devait être intériorisé. Hein, donc dans la justification devait être acceptée hein, pour en fait ne pas provoquer de phénomène de rejet. Hein, donc c'est un peu la différence hein, entre le contrôle social autoritaire et le contrôle social on pourrait qualifier de libéral en quelque sorte hein, en fait hein, mais qui donc doit utiliser hein, en fait hein, des subterfuges. Alors ça peut être la peur hein, donc la peur d'un virus très grave. La culpabilité hein, aussi, et le sentiment de culpabilité. Alors ça, c'est très utile. Là, je fais un développement là dans mon dernier bouquin là-dessus, notamment en politique. Hein, c'est-à-dire où en fait, on va utiliser hein, donc la culpabilité, notamment de la fermeture, par exemple, hein, de cette en nous culpabilisant avec la notion de société ouverte. Hein, qui en fait en quelque sorte serait la preuve que nous sommes généreux, humanistes, etc. Et en fait quiconque essaye de reprendre le contrôle des frontières hein, du pays hein, serait un horrible fasciste, etc. Donc bon là comme on est en période électorale, je fais cette petite incise hein, sur les donc on retrouve en fait là dans les éléments de langage de politique en ce moment en fait cette grande division entre ouverture qui ce serait le camp du bien et la fermeture le contrôle des frontières etc et qui serait le camp du mal. Nous ne sommes pas encore sortis en fait de ces méthodes d'ingénierie sociale par la culpabilisation. Le poids du concept de société ouverte est encore très lourd dans notre inconscient collectif. Et alors là, donc je fais référence à notamment George Soros qui a nommé sa fondation Open Society d'après le nom, enfin d'après un ouvrage d'un de ses maîtres, Karl Popper. Qui fait partie des grands théoriciens de l'ingénierie sociale au XXe siècle et que je commente aussi dans mon dernier livre qui a publié deux grands livres dans les années 50, c'est La société ouverte et ses ennemis et un autre livre Misère de l'historicisme dans lequel il traite de cette notion de social engineering qui est traduit en français à l'époque par un sociotechnique. Ou technologie sociale. Donc voilà, enfin, on est toujours en fait dans cet univers étymologique qui traite la société comme un objet avec les phénomènes donc de chosification donc les phénomènes dépressifs que cela induit chez les humains et qui donc sont compensés par en fait la simulation d'un horizon de liberté. Alors ça c'est une possibilité. Alors dans le marketing, vous aurez toujours plusieurs marques pour le même produit, par exemple. En fait, ça c'est ce qui donne l'illusion que le consommateur est libre. Il rentre dans un magasin, vous avez 15 marques de paquets de lessive, ou 15 marques de téléphone, alors que bon, les produits sont le produit en réalité est toujours le même. Mais ça c'est ce qui, l'univers du marketing. De créer cette espèce de sensation que nous avons le choix. Ça, c'est très important à cultiver. C'est une simulation. Le choix, là, à ce stade, en fait, est une fiction. Mais ça marche quand même un peu. Mais en réalité, l'horizon d'incertitude n'est pas respecté. Il est borné. Mais il est en quelque sorte l'objet d'une mise en scène, avec une mise en scène de libre arbitre. Ensuite, alors on parle de toutes les pathologies aussi qui dérivent de la société de consommation qui viennent effectivement de cette simulation de liberté. Alors il y a ça, et puis ensuite il y a les techniques j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire en fait le nudge le coup de pouce qui est appelé aussi alors par ses inventeurs Cass Sunstein et Richard Thaler ils ont appelé ça aussi le paternalisme libertaire la manipulation douce. Ça consiste en fait à vous inciter à faire quelque chose mais en permanence. Et donc en fait, c'est pas l'artillerie lourde en fait, c'est plutôt les attaques de drones, vous voyez, pour prendre une métaphore un peu comment dire guerrière. C'est-à-dire que nous sommes en permanence stimulés à faire quelque chose. En même temps, si on ne le fait pas, il n'y a pas de sanction immédiate. C'est juste qu'en fait, on s'écarte en fait de la norme mimétique. Et donc là, il y a notamment le patron de l'Institut BVA qui a théorisé tout ça, Eric Singer, et qui s'est exprimé dans les médias en fait, où il a tout déballé. Je peux vous citer par exemple un article du Point, un grand média, où Eric Singer, donc pour faire accepter le pass sanitaire, le pass numérique là, disait voilà, nous sommes des animaux sociaux. Et nos décisions sont inconsciemment orientées par toutes sortes de biais, précise Eric Singer, qui a travaillé main dans la main avec l'Élysée pour faire du nudge sur la société française. Donc, et Eric Singer continue. Or, la recherche a prouvé que l'homme tend naturellement, à se conformer à la norme. En clair, si vous pensez que la majorité des Français utilisent l'application Stop Covid, vous basculerez à votre tour pour vous conformer à cette norme sociale. Qu'importe qu'elle soit fictive, si la campagne Donc si la campagne de promotion est réussie, elle deviendra bientôt une réalité. Donc là, on voit que, en fait, il y a tous les mécanismes hein, des prophéties autoréalisatrices et de la fonction performative du langage hein, qui vise en fait à créer un comportement en disant qu'il est déjà là. Donc là, ça c'est l'effet un peu magique hein, du langage. Hein, si vous dites, vous pouvez créer en fait des mécanismes mimétiques, hein, des mécanismes reposant sur le conformisme. Hein, on connaît hein, la psychologie des foules, tout ça. Les psychologues et la sociologie ont commencé à étudier tout ça dès le 19e siècle. Hein, tous les mécanismes en fait mimétiques et conformistes hein, qui permettent en fait au moyen d'une incitation verbale hein, de créer des effets performatifs. C'est-à-dire que en fait, pour ne pas être mis au banc de la société, pour ne pas vous retrouver isolé. Hein, parce que ça, nous sommes des animaux grégaires, hein, comme le dit le directeur de BVA. Une angoisse hein, pour nous, c'est toujours hein, d'être isolé. Hein, nous ne sommes pas des. L'isolement, en fait, est angoissant et pour des raisons évolutives, bien connues.
Pardonnez-moi, je vous coupe parce qu'il nous reste même pas 4 minutes. Oui. Et est-ce que vous êtes en train de décrire le comportement de Gérard Larcher qui a peur d'être isolé?
Par exemple. Tous ces mécanismes hein, de psychologie sociale où en fait on se comporte par rapport aux autres, hein, donc par rapport à un miroir en fait, enfin par rapport en fait à des. En fait, nous sommes dans un palais des glaces. Hein, vous connaissez hein, l'attraction là à la foire du trône, tout ça. Hein, c'est ça en fait la psychologie humaine où en fait parfois on croit voir quelqu'un d'autre alors que c'est un miroir hein, et nous voyons notre propre image. Et parfois, on croit se voir soi-même, alors qu'en fait, on voit quelqu'un d'autre, mais derrière une vitre. Hein, et en fait, les sociétés humaines hein, reposent hein, sur ce mécanisme hein, de perception diffractée hein, de nous-mêmes et des autres, avec effectivement les effets anxiogènes. Les effets anxiogènes, non réalisés. Hein, les effets en fait de autoréalisateurs. Et ça, les grands manipulateurs, hein, là, l'Institut BVA, par exemple, avec ses sondages, par exemple, hein, créent des effets hein, d'anticipation comportementale pour, en fait, les réaliser. Mais en disant que, par exemple, en faisant croire que, en fait, je sais pas, là, tout à l'heure, vous parliez d'un sondage là, concernant la base MAGA, on pourrait tout à fait envisager que ce sondage, en fait, soit fictif, pour en réalité créer en fait justement cet effet hein, de soutien à Trump dans une période difficile hein, puisque on sait que effectivement la guerre en Iran a tendance quand même à fractionner hein, et à diviser son électorat. Il est évident que parmi les pro-guerres il y en a qui vont essayer de dire non mais tout va bien hein, la base électorale de Trump n'est pas fondamentalement érodé hein, par la guerre et il gagnera les élections de mi-mandat en novembre pour, en quelque sorte, hein, fabriquer le consentement à la poursuite de la guerre. Et en face, vous avez tous ceux qui vont dire « oui, mais non, nous allons perdre ». Enfin, au Parti républicain, par exemple, nous allons perdre les élections de mi-mandat hein, la popularité de Trump est en chute libre, etc., etc. Donc là on est dans le langage hein, et dans les faits, on pourrait dire dans les effets magiques du langage, hein, les effets de création de la réalité par le langage.
Alors Lucien Cerise, il nous reste une minute. Est-ce que vous pourriez très brièvement nous expliquer si aujourd'hui vous considérez qu'on voit encore justement les effets de ces confinements, de ce premier confinement qui a eu lieu il y a 6 ans sur la population, sur la façon dont les choses s'organisent, dont les gens pensent, mais vraiment en 2 mots par contre.
Oui, la santé mentale a été affectée hein, durablement. Hein, d'ailleurs, en fait, le même institut, la Santé publique France, qui nous disait de rester confinés en 2020 hein, et qui nous, en fait, aujourd'hui, parle de la santé mentale hein, des Français qui est affectée. Hein, il est évident que l'épisode 2020-2022 hein, a profondément impacté le tonus émotionnel, le tonus psychique des Français, et pas que des Français. Et c'est vraiment une catastrophe sur le plan psychique et cognitif en termes de traitement de l'information. Je vois quand même de plus en plus de manifestations de pathologies Donc c'est très grave ce qui s'est passé. Bon, nous avons tous une résilience donc j'espère qu'on va s'en sortir. Mais c'est quand même pas.
C'est pas évident.
Ouais.
Pas évident, mais on essaie, au moins nous, sur Radio Courtoisie, de retrouver, de redonner ce tonus, justement, à la population. Merci beaucoup, Lucien Cerise, d'avoir été avec nous. Je pense qu'on aurait pu encore en parler des heures, mais si ça intéresse les auditeurs, ils peuvent se tourner vers vos différents ouvrages pour creuser le sujet. Et puis nous, on ne manquera pas de vous réinviter. Je vous dis donc à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci d'être avec nous, chers auditeurs. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Il est 8h15. Dans quelques instants, on retrouve Gabriel Fouquet pour sa chronique et puis Laurent Martin Saint-Léon pour parler d'une victoire française contre le communisme. C'était il y a 50 ans. Ce sera au micro de Richard de Seize. Mais tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Alexandre de Galzin.
Le candidat LR de Reims et le RN d'Anne-Sophie Frigous s'unissent face au macroniste Arnaud Robinet à Reims, tandis qu'à Toulouse, le candidat PS a marchandé la fusion contre la place de candidat à la métropole en faveur du LFI François Picmal. Autrement, alors que Donald Trump souhaite débloquer le détroit d'Ormuz miné par les Iraniens, aucun pays occidental ne répond à l'appel, confirmant de ce fait un isolement nouveau des États-Unis sur la scène internationale. Enfin, on atteint désormais plus 41 centimes par litre depuis le 1er janvier, dont plus 31 centimes en deux semaines pour les prix de l'essence. Bon courage, chers auditeurs, et je rappelle que nous célébrons ce 17 mars Saint-Patrice et Saint-Théostérite.
Merci Alexandre.
Ligne droite.
Et nous poursuivons avec la chronique de Gabrielle Fouquet, qui est auditrice de l'Institut Iliade. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte.
Vous êtes aussi historienne de l'art et donc en ce moment, on parle beaucoup de Michel-Ange. Dites-nous tout.
Mais oui, nous fêtions en fait ses 550 ans le 6 mars 2025. Et figurez-vous que le 4 mars 2026, à Rome, il a encore fait les gros titres. La chercheuse indépendante Valentina Salerno convoque la presse internationale. Après 10 ans de recherche dans les archives du Vatican et d'ailleurs, elle annonce avoir découvert 3 documents inédits qui révéleraient que Michel-Ange Mourant n'aurait pas brûlé ses œuvres comme le raconte pourtant Vasari depuis 5 siècles. Coup de tonnerre ! Il les aurait en fait cachées, délibérément, confiées à un cercle restreint de fidèles avec une consigne précise, bien les cadenasser avec une multitude de clés pour que personne ne puisse y accéder sans la permission des autres. La chasse au trésor est ouverte, chers auditeurs.
C'est une sorte de chambre des secrets, vous voulez dire?
Exactement, ou la porte du monde de Narnia, si vous préférez C.S. Lewis à J.K. Rowling. Cette pièce secrète se trouverait quelque part sous la basilique Saint-Pierre au Lyon, là où trône le Moïse qui orne le tombeau du pape Jules II. Si ce lieu existe, il s'agirait de la plus grande découverte de toute l'histoire de l'art. Et il y a plus! Parmi la vingtaine d'œuvres inédites de l'artiste que Salerno dit avoir identifié grâce à ses documents, on trouve notamment un buste en marbre blanc du Christ Rédempteur qui est effectivement conservé à la basilique Sant'Agnese, mais qui est exposé comme anonyme depuis 40 ans. Eh bien, Salerno prétend pouvoir l'attribuer à Michel-Ange et avance un argument pour le moins romanesque, si ce n'est romantique. Ce visage du Christ ressemblerait, selon elle, trait pour trait à Tommaso de Cavalieri, la dernière passion de Michel-Ange. Le problème, c'est qu'on ne connaît aucun portrait du jeune homme dessiné par le maître. La chercheuse s'appuie en fait sur des portraits réalisés par d'autres.
Et la basilique Sant'Agnese a réagi peut-être?
Mais oui, elle a aussitôt installé un antivol sur le buste. On ne sait jamais, sur un malentendu. Mais qui donc est Valentina Salerno, notre nouvelle héroïne? Pas la nouvelle héroïne donc de Dan Brown, mais selon ses propres mots, une écrivaine, actrice, réalisatrice, pédagogue et historienne de la culture. Pas historienne de l'art, historienne de la culture. Vaste domaine. Son institution de rattachement, un musée Michelangelo qui n'existe que sous la forme d'une page Facebook.
Et les spécialistes sont sceptiques, j'imagine.
C'est un euphémisme. David Exergian, qui est l'autorité mondiale sur la Renaissance italienne, le dit sans détour, Michel-Ange est, je cite, « épiquement et complètement documenté ». Fin de citation. Vasari en 1550, Condivi en 1553, Vasari revu et corrigé par lui-même en 1568. Difficile donc, étant donné la matière déjà disponible sur l'artiste, de ne pas s'étonner des pseudo-découvertes de Salerno. Prudence, méfiance, Francesco Cagliotti de l'École normale supérieure de Pise résume finalement l'affaire d'un mot, un Da Vinci Code appliqué à l'histoire de l'art. Il faut comprendre que les attributions nécessitent beaucoup de précautions. Sans parler de coups de poker, il s'agit de mettre sa réputation, sa carrière et des millions en jeu à chaque fois. Vous imaginez donc que les courageux qui osent affirmer la paternité d'une œuvre ne sont pas légion. Mais reprenons, voulez-vous, qu'est-ce qui est avéré dans ce nouvel opus d'Indiana Jones ? Les archives existent. La méthode archivistique de Salerno est jugée sérieuse. La piste documentaire sur le buste est, je cite, « raisonnable ». Ce qui dérange ou reste à prouver, eh bien, aucune fouille pour trouver cette fameuse cache secrète n'a eu lieu, aucune validation scientifique indépendante non plus.
Et alors, il existe pourtant une vraie chambre secrète de Michel-Ange ?
Oui, à Florence, sous les chapelles des Médicis de San Lorenzo. Encore un chapitre de roman à la Dumas. Michel-Ange s'y est caché en 1530, condamné à mort pour traîtrise par Clément VII Médicis pour avoir soutenu l'éphémère chute de sa famille 3 ans plus tôt. Les murs sont couverts d'esquisses au fusain. Une tête de Laocoon, ce qui ressemble à un autoportrait, des études pour le jugement dernier. Redécouvert en 1975, l'espace se visite sur réservation depuis 2023. Rendez-vous compte, même terrorisé, même traqué, Michel-Ange dessinait. Et c'est peut-être la seule certitude qui compte dans toute cette affaire.
Et pourquoi cette fascination qui ne s'épuise pas, Gabriel ?
C'est le phénomène du papillon épinglé pour mieux l'admirer. Sauf que Michel-Ange n'est pas un grand monarque naturalisé. Plus on le documente, plus on l'attribue, plus on fouille ses archives et ses souterrains et plus il déborde de sa vitrine. C'est un titan au sens mythologique grec, celui qui précède les dieux et que les dieux ne peuvent pas tout à fait contenir. 5 siècles de dissection n'ont fait qu'épaissir le mythe Michel-Ange. Peut-être faut-il souhaiter que la porte de Saint-Pierre-aux-Liens demeure close, de peur de casser le mythe avec son cadenas.
Merci Gabriel Fouquet pour cette chronique. Je pense qu'on est tous à la fois très curieux et en même temps d'accord avec vous, c'est joli de garder cette part de mystère. Je vous dis à mardi prochain.
Bonne semaine.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et on poursuit, je cède la parole à Richard de Sèze.
À Richard de Sèze, mais surtout à Laurent Martin Saint-Léon, qui est fan de Saint-Étienne depuis un peu plus de 50 ans, ou presque. Et avec vous, nous allons évoquer une victoire française contre le communisme, parce que c'est le 17 mars 1976 que l'AS Saint-Étienne a mis la pâtée au Dynamo de Kiev.
Alors, la pâtée, c'était un match homérique. En effet, c'est en effet le 17 mars 1976 que l'AS Saint-Étienne renverse la vapeur dans un match aux circonstances incroyables, attendu par toute la France, puisque à l'époque, les deux chaînes de télévision qui existaient retransmettent toutes les deux en même temps le match. Il n'y avait pas d'autres programmes sur les chaînes de télévision ce soir-là. Et c'est un renversement de situation inédit, incroyable, face à l'équipe de l'Union soviétique. En effet, le Dynamo de Kiev, emmené par le triple ballon d'or Oleg Blokhin, star international et incontesté du football à l'époque, sacré meilleur joueur d'Europe. Le Dynamo de Kiev l'avait emporté 2-0 au match aller et toutes les conditions sont réunies pour un suspense incroyable. C'est le moment où l'AS Saint-Étienne va forger sa légende ce 17 mars et on dépasse totalement les limites du football. On est dans l'histoire de France, on est à Iéna, on est à Bouvines, on mène une bataille et cette bataille, toute la France est derrière Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a un maillot que je vous ai amené exceptionnellement ce matin puisque je suis un peu reliquaire, ce maillot qui a des parements bleu, blanc, rouge. Il est le seul club de France à avoir ses parements bleu, blanc, rouge. Alors vous avez la version sans publicité puisqu'à l'époque en Coupe d'Europe on n'avait pas le droit d'avoir de publicité. Et puis la version avec publicité qui m'a été offerte récemment par un journaliste réputé avec le logo de Manu France à l'époque, la manufacture proche de Saint-Étienne. Et ça n'est pas que le peuple de Saint-Étienne qui soutient Saint-Étienne, c'est toute la France. Robert Herbin, l'entraîneur, a été invité par Jacques Chancel dans le Grand Échiquier peu avant le match. Et Jacques Chancel lui dit « Vous devez gagner, vous devez marquer 3 buts, c'est un devoir. »
Alors effectivement, en Crimée, à Simferopol, le Dynamo de Kiev atomise l'AS Saint-Étienne avec 2 buts. Et c'est les Stéphanois reviennent absolument dévastés. Et il faut quand même expliquer un peu aux auditeurs pourquoi est-ce qu'on est en train d'en parler. Parce que vous avez parlé de Bouvines, vous avez parlé de Diéna. Quand c'est l'anniversaire de Bouvines, on se contente de le mentionner très rapidement en début de matinale. Mais là, en fait, cette victoire nous renvoie 50 ans en arrière, à l'époque où l'équipe de France était constituée de gens qui ressemblaient à ceux qui étaient dans les tribunes, nous renvoie à une époque où le bloc soviétique existait. Et en fait, il y a un engouement autour de cette rencontre AS Saint-Étienne Dynamo de Kiev qui est incroyable, puisque donc 50 ans après, des milliers en fait de supporters, comme on a le droit de dire, je crois, des milliers de fanatiques sont prêts à repasser le match en boucle, vont être devant leur télévision pour revivre ces instants. Des groupes Facebook se sont créés. Il va y avoir vraiment un nombre de manifestations incroyables.
Absolument. Alors, effectivement, d'abord, vos concurrents aujourd'hui, et je suis très heureux d'être sur Radio Courtoisie ce matin, mais toutes les autres ondes concurrentes aujourd'hui se sont mobilisées pour commémorer cette journée. C'est une journée commémorative quand même, ce qui est assez exceptionnel. Il y a pendant 3 soirs de suite à Saint-Étienne une soirée réservée autour d'un film qui s'intitule Un but, une épopée, puisque c'est le premier but marqué par Hervé Révelli à la 65e minute. Et effectivement, dans toute la France, des groupes Facebook, des groupes Instagram se sont constitués pour commémorer ce qui n'est pas un match, ce qui est une bataille, ce qui est le début d'une épopée. Vous y avez fait référence, le 2 mars, Saint-Étienne se déplace à Simferopol pour perdre ce match face au Dynamo de Kiev. Ils sont balayés 2-0. La sanction aurait pu être plus sévère. Et ce qui est très frappant, c'est qu'ils sont dans la boue à Saint-Féropol, que le ballon n'avance pas. On est dans une campagne napoléonienne, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est l'armée napoléonienne qui est balayée par une armée soviétique, en l'espèce. Et puis, donc, il y a ce match retour où il s'agit de laver l'humiliation, laver l'affront. Et aujourd'hui encore, eh bien, on commémore cette journée. Ça fait 50 ans. Aujourd'hui d'une victoire française contre une équipe qui était la plus solide et la plus réputée d'Europe. Alors Saint-Étienne aujourd'hui effectivement va célébrer cette victoire, et toute la France aussi. C'est une fierté française, le match du 17 mars, parce que c'est un match de dépassement, parce que, comme vous l'avez dit, les joueurs ressemblent à ceux qui sont dans les tribunes. À l'époque, il n'y a pas de salaire mirobolant, il n'y a pas de superstar. C'est un collectif soudé autour de valeurs. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ont été formés au club. À l'époque, la réglementation européenne voulait qu'il n'y ait pas plus de 2 joueurs étrangers par équipe. Ces joueurs, donc, viennent pour la plupart de toute la France. Il n'y a que le gardien Ivan Kurkovic, qui est yougoslave, et puis le pilier de la défense, Osvaldo Piazza, qui est argentin. Mais pour tous les autres, ce sont des joueurs, soit qui viennent d'autres clubs, mais qui ont été formés, qui sont passés par ce creuset, par cette école. Et ce sont des gens issus de tous les milieux qui se retrouve autour d'un collectif. Alors, il y a bien une star qui émerge, c'est Dominique Rocheteau, qui sera l'homme du match à la fin du match, puisque c'est lui qui permettra à Saint-Étienne de se qualifier. Dominique Rocheteau, il a la figure du Christ, il a une figure pop aussi, parce qu'on est dans les années 70, il a les cheveux longs, il incarne un ange, on l'appelle l'ange vert. Donc, toutes les conditions sont réunies, non pas pour un simple match, mais pour une histoire, pour une romance. Aujourd'hui, on dirait un storytelling, mais c'est bien plus que ça, c'est une épopée.
Voilà, exactement, c'est une épopée. Il y a Rocheteau, il y a Farizon, il y a Patrick Révelli, il y a Sarah Magna. Donc c'est une France, effectivement, avec des gens qui sont stéphanois. On sent qu'il y a déjà, avec les noms qu'on vient de citer, un peu d'immigration, mais une immigration totalement digérée. Et sur le terrain, on est revenu à Saint-Étienne, c'est le match retour. Et la première mi-temps a été tout aussi napoléonienne. Ukraine, c'est-à-dire les armées se sont fait face, on est à 0-0, les soviétiques sont en train d'imposer leur rythme calme, leur technique, et les Français, eux, sont un peu fébriles, en partie d'ailleurs parce que il y a des blessures, l'arqué, je crois, s'est déchiré le mollet, il a une crampe, il expliquera après le match qu'il était obligé de marcher sur ses talons tellement il n'en pouvait plus, mais l'entraîneur, Robert Herbin, lui a intimé l'ordre de rester sur le terrain.
C'était à Rocheteau et c'était au cours des prolongations, et effectivement, on va en reparler. D'abord, comme vous l'avez dit, la première mi-temps, effectivement, c'est un face-à-face extrêmement rugueux. Les deux armées se font face, mais la différence ne se fait pas en dépit d'une domination de tous les instants de Saint-Etienne. Et puis, à la 65e minute, il se passe ce qui se passe toujours dans une dramaturge, c'est-à-dire un retournement de situation. Les Soviétiques contre-attaquent et le meilleur joueur d'Europe, Oleg Blokhin, part droit vers le but stéphanois, dans une chevauchée qu'on lui connaît. Il élimine un joueur, deux joueurs. Il arrive face à Ivan Kurkovic qu'il fixe. Il va tirer. Et à la dernière minute, finalement, il se décide à faire un dernier crochet. Et ce dernier crochet lui sera fatal, puisque Christian Lopez, Naït Daïn-Temouchen, est revenu pour contrer le rugueux ukrainien et, dans un geste désespéré, réussit à récupérer le ballon et à le dégager. Et sur ce contre, il y a un renvoi. Et c'est à ce moment-là que le match va basculer.
Peu après l'heure de jeu, Oleg Blokhin, la star du Dynamo, souffle un froid glacial sur Geoffroy Guichard.
Blokhin, oh ! Attention ! Blokhin, oh là là, heureusement ! Lopez revenu ! L'arbitre avait laissé l'avantage, évidemment, après toutes les fautes de Jean Vion. Yes ! Le but réussi par Hervé Revelli.
C'est génial. Bah vraiment, quand on l'entend à nouveau, la manière, c'est cette manière de commenter. En plus, on a regardé les images. Il y avait cette technique qu'on a aujourd'hui pour photographier, filmer un match, des caméras qui survolent, les arrêter, le replay immédiat. Là, pas du tout. Il y a deux, trois caméras qui sont des images qui commencent à être un peu passées, et cette voix faubourienne qui est en train de nous expliquer à quel point c'est la joie. Effectivement, ça se passe en 10 secondes. Je suis allé chercher le récit que vous nous faisiez. Et bravo, d'ailleurs, on sent que vous le vivez. Voilà, Oleg Blokhin en position de contre a récupéré le ballon sur l'aile droite. Il grille Jean Vion, il file balle au pied, élimine Lopez, le dernier défenseur d'une petite feinte. Le but s'ouvre devant lui à 50 mètres avec le seul Irvan Kurkovic qui a toutefois réduit l'angle pour le défendre. Blokhin n'est pas l'homme à rater ce genre de duel. Il est le ballon d'or, un buteur expérimenté. Tout le monde voit déjà le ballon au fond des filets, c'est la fin. Au lieu de tirer au but ou de passer la balle à Onichenko, qui est lui aussi seul sur sa gauche, Blokhin commet un péché d'orgueil. Il fignole, tente de crocheter à nouveau. Lopez, revenu à toutes jambes, erreur fatale. Lopez lui souffle le ballon. Dans le contre qu'il amorce, il transmet à Piazza, lequel crinière au vent, lance Patrick Revelli, qui sans contrôle et de l'extérieur du pied, réussit d'une pichenette à prolonger le ballon vers son frère Hervé. Reschko est lobé, Piazza est là. Hervé Revelli, le plus prompt, déporté sur la gauche, il tire instantanément avec précision. Rudakov reste figé sur sa ligne, battu, le stade explose.
Exactement, vous pourriez succéder à Thierry Roland maintenant, Richard, c'est parfait. C'est exactement ça. Donc on est dans la dramaturge, tout a basculé en une minute. Même Thierry Roland s'est arrêté de commenter tellement il était stupéfait du fait que Blokhin ait échoué face à Christian Lopez. Et sur cette relance, Lopez-Piazza, le duo charnière de l'AS Saint-Etienne, un duo merveilleux qui fera le bonheur de tous les supporters, effectivement, Revelli va marquer. On voit presque à peine ce but sur les images, parce qu'en fait, il n'est pas très visible, le ballon traîne dans la surface de réparation, Thierry Roland s'est tué, et puis c'est l'explosion dans le stade. Alors il faut voir ce stade qu'on appelle le Chaudron, Geoffroy Guichard, c'est le Chaudron. On est dans une ville ouvrière, une ville minière, c'est l'année où Bernard Lavilliers sort son titre Saint-Étienne, justement, on n'est pas d'un pays mais on est d'une ville, disait-il, on est d'un pays et d'une ville, désolé Bernard. Et donc ce titre exceptionnel résume bien l'aspect industriel, sidérurgique de Saint-Étienne. Et le Chaudron, c'est ça, il n'y a pas de piste juste d'athlétisme autour de la pelouse. On est directement sur la pelouse, à l'anglaise, en quelque sorte. Les grillages retiennent les supporters. Et les 45 000 supporters stéphanois qui sont massés dans le stade explosent. Tout est prêt pour la victoire.
Tout est prêt pour la victoire. Et les Français reprennent courage. Les Soviétiques sentent le vent de la panique les gagner. Souvenons-nous qu'à l'époque, perdre quand on est soviétique, évidemment, c'est jamais une joie, parce que le retour au pays est pénible. C'est pas juste les journalistes qui vous font la gueule, c'est aussi le parti qui a tendance à vous faire quelques misères. Et il reste donc 25 minutes à jouer. 5 minutes après le but de l'espoir, Hervé Révéli, à la hauteur des 18 mètres, est bousculé par Reschko et bénéficie d'un coup franc en position idéale.
Voilà. Et à ce moment-là, celui qui est chargé de tirer les coups francs à Saint-Étienne, c'est Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, c'est une autorité morale. Il est un tout petit peu plus âgé que les autres joueurs, incroyablement respecté. C'est le duo du football français, Larquet-Herbin. Il y en aura un autre qui sera Platini-Hidalgo. Évidemment, Larquet va se charger avec sa cheville bandée parce qu'il souffre toujours, je crois qu'à l'époque c'était une pubalgie, mais il souffre toujours de sa jambe. Et Larquet va se charger de ce coup franc dans un stade qui retient son souffle. Un coup franc, c'est pas quelque chose qu'on réussit automatiquement, c'est pas un pénalty, c'est pas aussi simple.
Et d'ailleurs, au match aller, c'est sur un coup franc que les Ukrainiens avaient massacré.
Absolument.
Les Français.
Détourné malheureusement par Dominique Battenay, un des autres héros de l'épopée stéphanoise, bien malheureux ce jour-là de ce détournement involontaire. Et donc Larquet va poser son ballon il va assumer toutes ses responsabilités de capitaine et dans un tir extrêmement raide, il va propulser le ballon dans les filets de Rudakov, qui est battu. Et là, c'est l'égalité, 2-0. Saint-Étienne a rattrapé son retard. Saint-Étienne est de nouveau en pole position.
Alors attention à la frappe de balle de Jean-Michel Larquet. Elle vaut tout simplement l'égalisation au tableau d'affichage. But ! Le voilà ! Égalisation de Jean-Michel Larquet sur ce coup franc.
Voilà. Alors, à 20 mètres dans l'axe du but, Larquet se précipite sur le ballon. Rocheto lui indique un espace sur la droite. Larquet brosse la balle de l'intérieur et le ballon part comme téléguidé. Il s'engouffre avec une précision diabolique au ras du poteau gauche de Rudakov. C'est comme si le tonnerre éclatait dans le stade. Larquet est submergé sous les trains de ses coéquipiers. Tout est à refaire pour les Soviétiques. Tout recommence pour la SE.
Tout recommence et on va arriver à la fin du match. Où les joueurs n'en peuvent plus de part et d'autre. D'ailleurs, ils sont épuisés. Encore une fois, c'est toujours ces références à la campagne de Russie, mais on a un peu presque l'image de ces chevaux qui s'affaissent sur le bas-côté qui n'en peuvent plus, même si on n'est plus dans le bourbier de Saint-Féropol. Les deux équipes sont totalement rincées. Donc on a ces images.
Et pardonnez-moi, ça aussi c'est absolument fascinant. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'habitude de voir des types qui cavalent pendant une heure à des vitesses de pointe ahurissantes d'un bout à l'autre du stade. Il y a une préparation physique, on a des athlètes incroyables. À l'époque, on n'est pas avec des espèces de machines de muscles surveillées par une batterie de kinésithérapeutes et une médecin du sport.
Alors on en prend le chemin quand même, parce que Robert Herbin était réputé pour infliger à ses joueurs une préparation physique extrêmement dure. Il y a des photos, d'ailleurs dans le magazine 11 on voit le journaliste Jacques Vendroux partager l'entraînement des joueurs et c'était un entraînement où on ne rigole pas avec un bâton derrière le dos avec des entraînements extrêmement physiques. Kurkovic, le gardien, passait des heures à répéter des mouvements avec Robert Herbin. Donc Robert Herbin a compris que le football total, le football physique, c'était l'avenir et il a engagé son club vers cette démarche de football physique. Donc c'est certainement pour ça que Saint-Étienne va se montrer à la hauteur de ces prolongations qui arrivent. C'est que ces joueurs ont beau être totalement épuisés, ils vont malgré tout réussir à tenir cette épreuve de la prolongation, parce que les Soviétiques sont aussi des joueurs rugueux, expérimentés, et eux aussi ont une préparation physique. Donc on a deux équipes qui maintenant sont un peu dans ce que vous dites. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a atteint des sommets avec des athlètes confirmés de manière très impressionnante, mais on est quand même un peu dans les prémices de ce football total. Ce qui en plus, c'est que pendant cette prolongation, les joueurs sont affalés sur le bas-côté, ils sont allongés, ils boivent, quand on a des crampes, il faut boire, et Effectivement, vous l'avez dit, Dominique Rocheteau, l'ange vert, l'ailier droit du club, a des crampes insupportables. Il n'en peut absolument plus, il a pas envie d'y retourner, il va y retourner, mais on voit le masque de la souffrance sur son visage, sur le visage des autres joueurs pendant qu'ils boivent, et la prolongation repart.
Alors, il faut y retourner. Les masseurs ont essayé de les soulager. Là, je recite une fois plus le texte. Rocheteau est sur une jambe, il demande à sortir, Herbin ne l'entend pas. On assiste à la dramatique la plus palpitante de l'année. Piazza tombe à son tour, vaincu par les crampes et les coups. Mais la foule qui s'abandonne l'oblige à se relever. Kiev en profite pour lancer quelques flèches, mais Kurkovic sort le grand jeu, etc. Fin de la première prolongation. Donc, racontez-nous cette première prolongation.
La première prolongation, c'est encore un face-à-face, encore une fois, mais qui ne donne rien, qui est effectivement toujours dans un affrontement physique extrêmement violent. Ce sont les cuirassés qui s'affrontent, mais il n'en ressort strictement rien. Il va y avoir de nouveau un changement. Alors, vous savez, quand il y a une prolongation, on change de terrain, on permute, et au moment de permuter, une fois de plus, certains joueurs sont au bord de l'épuisement, essayent de boire au passage, enfin c'est pas une simple permutation. Et puis, y a un joueur qui n'en peut plus, je l'ai dit, c'est Dominique Rocheteau. La seconde prolongation commence, et Dominique Rocheteau fait signe à Robert Herbin, il veut sortir, il n'en peut plus. Et Robert Herbin, qui a son masque de sphinx, on le surnommait le sphinx, Robert Herbin fait mine de ne pas entendre. Il a dit au cours de début de la prolongation à Dominique Rocheteau qu'il fallait qu'il reste et qu'il était convaincu que c'est lui qui allait marquer. En fait, c'est un match où à chaque fois il y a eu une préscience. Jacques Chancel a dit vous devez marquer 3 buts et Robert Herbin dit à Dominique Rocheteau c'est toi qui vas marquer. On a des 2-20 et Rocheteau va rester sur le terrain, grimaçant de souffrance, ne courant pratiquement plus.
Il marche,
mais il va marcher au bon endroit, c'est-à-dire qu'il y a une contre-attaque de Saint-Etienne. Patrick Revelli, avec son physique de sanglier, avec ses belles bacchantes, ses belles moustaches débordent sur le côté droit, un crochet, deux crochets, la balle va sortir, c'est inévitable, et il parvient à se redresser dans un effort quasi surhumain, redresser la trajectoire de la balle, il fait la passe à Rocheteau, et Rocheteau est un peu en retrait, un peu décalé, il réussit aussi dans un mouvement de buste à se décaler, il propulse la balle au fond des filets, le stade exulte, 3-0, Saint-Etienne est qualifié dans un mouvement dantesque.
Le parcours de l'indomptable Patrick est extraordinaire de détermination. Il élimine d'un dribble long Troshkin à quelques centimètres de la ligne de but. La balle paraît même sortir. Il redresse le ballon dans un effort désespéré et centre en retrait. Son frère Hervé s'est précipité, attirant à lui deux défenseurs. Et Dominique Rocheteau est là, seul au point de pénalty. À force de marcher, il a été oublié. L'erreur qui ne pardonne pas. L'ange vert reprend instantanément de l'intérieur du pied droit. Le ballon file, les filets tremblent.
Santini, bien joué pour Patrick Revelli dans la surface de réparation. Patrick Revelli va pouvoir centrer en retrait. Rocheteau,
mais ça fait tellement plaisir.
Oui, ça fait plaisir, c'est vrai.
Pas de fumigène, pas de banderole débile, pas de chant injurieux.
Non, non, dans le respect. Et puis les soviétiques inspiraient le respect, hein, il faut quand même le dire. Et effectivement, le stade exulte, il reste quelques minutes à jouer, des minutes qui paraissent interminables. Je rappelle que toute la France est devant son téléviseur, puisque pour ceux qui en avaient un à l'époque, puisque les deux chaînes de télévision retransmettent l'événement. Et puis à l'époque, France 3 cessait d'émettre à partir de 20h. Donc on a vraiment le pays entier qui attend le moment de la délivrance. C'est un moment qui va arriver. Et au moment où il arrive, Patrick Revelli et Hervé Revelli se jettent dans les bras l'un de l'autre. Le stade entier est en liesse. Et c'est un événement à nul autre pareil, en effet. C'est une victoire inattendue. Oleg Blokhin va quitter le terrain la tête basse, suivi par Gérard Janvion, qui est l'arrière droit, qu'il a fidèlement marqué pendant tout le match, qui a joué un rôle exemplaire pour éviter qu'il puisse exercer ses talents. Saint-Etienne a gagné une bataille. Il n'a pas encore gagné la guerre, parce que la guerre, c'est gagner la Coupe d'Europe, et il faut encore passer maintenant une autre étape. Il se dirige vers les demi-finales avec un affrontement qui aura lieu avec le PSV Eindhoven. C'est une autre histoire, mais en tout état de cause, c'est à ce moment-là que s'est créé ce qu'on a appelé l'épopée des Verts. Il y avait eu des matchs par le passé contre Split, extraordinaire aussi. Il y avait eu des retournements de situation exceptionnels. personnel, etc. Mais ce match-là va rentrer dans l'inconscient. On ne parle plus de joueurs, on parle de héros. À ce moment-là, le chanteur Monty va mettre en place une chanson qui s'appelle « Qui c'est les plus forts ?» Évidemment, c'est les Verts qui va se vendre. «
Qui c'est les plus forts, évidemment,
voilà, c'est bien, les Verts. » et qui se vendra à des millions d'exemplaires qu'on écoute encore. Et donc, la légende stéphanoise va naître. Elle est commémorée aujourd'hui. Et c'était une époque, une période qui appartient aussi aujourd'hui à l'histoire de France.
Donc j'ai cité à plusieurs reprises vraiment un article excellent que vous pouvez trouver en ligne sur un très bon site qui s'appelle poteaucarré.com, poteau avec un X, très
d'union,
poteau carré, parce que si à cause de ce poteau carré, la balle a rebondi, alors que si le poteau avait été cylindrique, la balle serait rentrée.
Voilà, alors c'est pas scientifiquement prouvé, c'est une autre histoire, c'est le 12 mai 1976, effectivement, la tête de Santini et puis le tir de Dominique Battenet qui ne rentreront pas dans la cage face au Bayern de Munich. Et il a été dit, le stade d'Amden Park en Écosse avait des poteaux carrés, alors que pour la plupart en Europe, la plupart des poteaux étaient ronds. Et on a dit, si les poteaux avaient été ronds, Saint-Étienne aurait gagné. Donc c'est pour ça que ce site s'appelle
Poteau Carré.
Vous avez même des exemples les cages d'Amden Park ont été découpées et on a vendu les poteaux carrés.
Voilà.
Comme mes reliques. Venu avec mes reliques, encore une fois.
Merci beaucoup, Laurent Martin Saint-Léon. Allez les Verts. Et je rappelle, dans les deux secondes qui me restent, que vous venez d'être élu à Neuilly-sur-Seine sur la liste de Benoît Aglon.
Absolument,
qui est
mon ami Benoît, tout à fait.
Patron d'émission sur Radio Courtoisie. Donc voilà, de temps en temps, il y a des petites victoires.
Benoît qui était un bon capitaine et j'essaierai d'être un bon ailier.
Voilà. Merci beaucoup, Laurent Martin Saint-Léon.
Merci à vous.